Curriculum Vitae.
Bonjour mesdames et messieurs, c'est Dani Benz au microphone. Je vous souhaite la bienvenue à cette émission. Je suis encore une fois en compagnie du frère Sylvain Richer, recteur de l'Ermitage Saint-Antoine à Lac-Bouchette. Bonjour frère Sylvain.
Bonjour madame Benz.
Vous allez bien?
Oui, très bien, merci, vous aussi.
Oui, ça va très bien. On s'est laissé la dernière fois où vous aviez fait votre choix pour vos études au Cégep, la technique d'interprétation du patrimoine naturel. Et ça se donne au Cégep de Saint-Félicien. Vous avez été accepté et là, à 18 ans, vous êtes parti de la maison pour faire 350 ou 400 kilomètres, là, ça dépend quelle route on prend, pour arriver à Saint-Félicien. Quel était votre état d'esprit pendant que vous faisiez ce chemin?
Ben, pour moi, c'était quelque chose, bon, c'est la technique du milieu naturel, donc c'était quelque chose de naturel. Un, c'est un chemin que je connaissais depuis mon enfance, parce que quand on partait du Cap-de-la-Madeleine pour aller en vacances, on passait par ce chemin-là. Alors, c'était du connu, mais qui s'ouvrait sur de la nouveauté aussi. Parce que là, je partais tout seul, en appartement. J'allais rencontrer des gens que c'était à moi à faire les premiers pas pour me présenter, pour et m'ouvrir aussi à la découverte, rencontrer, connaître ces gens-là, puis être avec eux 2 ans, 3 ans ou plus, qui sait.
Est-ce que vous êtes allé en appartement seul ou vous deviez partager un appartement avec d'autres étudiants?
Ben, la première année, j'habitais dans le sous-sol d'une maison. J'étais tout seul là, mais il y avait la famille en haut, la famille côté, et qui m'invitait pour différentes fêtes aussi de famille. Alors, c'était agréable. Mais je restais à presque 2 kilomètres du cégep. Alors, l'hiver, c'était froid à marcher ça. Mais il y a une dame travaillant en polyvalente à côté du cégep qui a fini par m'embarquer l'hiver, puis c'était agréable. Et l'année d'après, je restais en face du cégep. Nous étions 4 à partager l'appartement.
Alors, c'était la vie adulte là qu'il fallait assumer. Hein? Ça veut dire faire le marché, faire à manger, faire le lavage, faire le ménage.
Oui, faire tout ce qu'on fait dans une maison. Bon, c'est sûr, chez nous, on avait déjà eu cette formation-là là, avec ma mère, mon frère, et j'ai commencé à cuisiner, à faire ma propre sauce à spaghetti à 13 ans, là, pour aider ma mère. Je l'avais vu faire, on essaye, on se lance. Alors, en appartement, c'était rien de neuf pour moi. C'était juste que là, je vivais avec d'autres personnes qui venaient de d'autres milieux, de d'autres horizons, et c'est d'apprendre à composer avec eux, puis de faire que ce soit non seulement vivable, mais que ce soit une bonne vie ensemble.
Oui, ben oui, c'est un défi. Et dans le cadre de ce programme, on vous a permis, je pense à la toute fin, vers la troisième année, de faire un stage dans un parc national en France, dans les Cévennes. Alors ça, c'est quand même extraordinaire. Parlez-nous de ça.
Eh bien, c'est notre dernière session, hein, des 3 ans. C'est un stage de groupe. Donc, tout notre groupe, les 5 étudiants plus 3 professeurs, on avait été invités par le Parc national des Cévennes pour aller faire un plan de mise en valeur. C'est sûr qu'un de nos professeurs, le responsable d'aménagement et interprétation, avait des contacts. Alors, c'est ce qui nous a permis d'y aller. Et puis, donc, de découvrir un milieu tout à fait autre, magnifique. Et j'ai encore de beaux souvenirs des Cévennes, des paysages, les causes, l'observatoire du Mont-Aigoual, dans le sud du parc des Cévennes. C'est là où on faisait le plan de mise en valeur, parce qu'il y avait beaucoup de choses pour la Lozère, pour ce secteur nord du parc, mais pour le Mont-Aigoual, très peu. Mais il a découvert des senteurs avec la vallée de Talayrac et ses oignons doux, les mûriers, les magnaneries de Valrhoc. Alors, c'était vraiment intéressant parce qu'il y avait le côté naturel, il y avait le côté historique, culturel. Et tout ça, ben, ça parle de l'être humain et de son cheminement. Quelque chose qui m'intéresse toujours.
Mais oui, c'est ça. Et c'était pour vous un premier voyage en Europe. Alors, vous avez eu aussi la chance de faire des visites, la ville de Nîmes, parce que c'est dans le sud de la France, hein. Il y a la ville de Nîmes, entre autres, qui je pense, au-delà de 3000 ans. Et puis, il y a la Camargue, dont on peut voir les images à la télévision ou dans des magazines, mais ça doit être magnifique, ça.
C'est magnifique. Nîmes, en effet, vraiment, ça date de l'Antiquité et d'avant le Jésus-Christ. Et la Camargue, pour ses paysages naturels, les marais salants, les animaux, les flamants roses, mangeurs de crevettes. Alors, ça, c'était vraiment très intéressant. Et le bord de la Méditerranée. Alors, une découverte encore pour moi qui était très agréable et en bonne compagnie aussi, mon groupe de cégep.
C'est un chant signé Bernard et Akepsimas. Vous l'avez choisi pourquoi, frère Sylvain?
Pour différentes raisons, mais qui me semblent toutes avoir un lien avec où je suis présentement, dans le sens que vers toi je viens, Jésus-Christ, ma lumière. Quand on écoute les strophes de cet hymne du carême, qui est un temps finalement très lumineux, pas juste de pénitence, mais où je fais un retour en moi-même, je regarde comment je suis affecté par ce qui se passe autour de moi, par ce qui se passe en moi, comment ça affecte aussi autour de moi. Et ça, je dirais, ça m'est venu encore plus évident en 2020, au printemps 2020, alors que tout le monde était confiné. Nous ici, on a un grand terrain, donc ça permet de marcher, d'écouter. Il n'y avait pas de bruit, il y avait les sons de la nature. Alors, ça nous permettait de voir aussi davantage les couleurs, davantage ce qui nous entourait, écouter, s'émerveiller, découvrir. Et non seulement la nature, mais nous ici, sur les terrains, nous avons 7 kilomètres de sentiers pédestres. Et l'hiver, c'est entretenu. Autrement dit, avec une gratte, un VTT, c'est moi qui le fais. Alors, oh! Je connais très bien les terrains. Et il y a des gens qui sont venus marcher parce qu'ils avaient besoin de se sentir renouvelés. Parce que sinon, pris dans la maison, à pas pouvoir aller dans leurs activités habituelles. Et j'y ai rencontré des gens que je connaissais, certains même de qui j'avais une image qui date d'il y a 30 ans.
Ah oui.
Quand je suis arrivé à Lac-Bouchette, et qui venaient marcher, qui découvraient les sentiers. Mais ça a permis de parler. On était en plein air, donc. Et des belles rencontres. Des belles rencontres humaines et aussi de soi. Donc, ce chant-là, cet hymne-là du carême, me parle et me ramène à moi. Et quand j'écoute tout ça, je me dis, ça a un lien aussi avec Saint François d'Assise, qui est le saint patron, le saint fondateur des Capucins. On est de la famille de Saint François. Alors, tout ça, ça me fait dire, je suis probablement bien à ma place.
Oui, on vous retrouve dans votre cheminement, dans votre parcours de vie, frère Sylvain Richer, après votre cégep, comme homme de service à l'Ermitage Saint-Antoine. Est-ce que l'appel à la vie religieuse s'était déjà fait sentir dans ces années-là?
Si je vous disais que ça faisait longtemps que j'avais mis ça sous le tapis. Parce que tout petit, j'avais ça me questionnait. D'ailleurs, adolescent, j'étais servant de messe chez les sœurs de Jésus-Marie au Cap de la Madeleine, où sont maintenant les Carmes, à Trois-Rivières. Et puis, oui, ça... Et on a parlé de mes grands-parents. Ma grand-mère, Bruno, demandait souvent à mes cousins et à moi, « Tu pourrais peut-être faire un prêtre. » Ça, c'est ce que je me souviens. Et puis, tout le monde, on lui a dit « Non, merci. Hein? » Merci grand-maman, mais arrêtez de nous achaler avec cette question-là. Puis, pour ma part, bien de venir travailler à Lac-Bouchette, j'ai commencé en camp de vacances et après ici à l'Ermitage comme homme, comme journalier, homme de service, gardien de nuit, puis rencontrer des gens encore et connaître les frères. Et là, un jour, il y a un frère, je dis tout le temps, vous savez, il y a des fois dans la ville où on se dit, j'aurais dû me mordre la langue. Hein? Alors, il y a un frère qui dit, la vie religieuse t'a jamais intéressé. Et du tac au tac, j'ai répondu, t'as jamais posé la question. Puis là, j'ai pensé en dedans de moi, pourquoi t'as pas fermé ta boîte? Et tout s'est enclenché à partir de là.
Oui, c'est ça. Donc, vous avez répondu à cet appel et on vous retrouve pour votre première profession, entouré de toute la famille.
Oui, faites l'invitation et ça l'a répondu la famille Bruno et ils étaient très présents puis contents. Et des cousins, cousines, certains que j'avais pas vus aussi depuis longtemps, certains qui ne s'étaient pas vus depuis longtemps. Parce que dans une grande famille, écoutez, comme là j'ai su la date de notre épluchette de Blédin de familial annuel au mois d'août, et on va être probablement 70 à 80, puis il va manquer du monde.
C'est ça.
Alors, mais de se revoir là, parce que moi, bon, en étant loin, puis travaillant l'été, je pouvais pas me rendre aux fêtes de famille. Donc, ça a été une fête de famille, une façon de se retrouver. Et mes cousins, cousines, me suivent encore, on se suit encore, on a notre groupe Messenger, puis on sait c'est la fête de qui, qu'est-ce qui se passe dans la vie de l'autre, Régent qui va au jeu des aînés. Alors, c'est vraiment une famille qui se tient, qui s'aime, qui a ses différends, qui a ses anicroches, mais une famille qui fondamentalement s'aime.
Oui. Et donc, vous êtes entré dans cette famille des Capucins, mais même si ça vous parlait beaucoup depuis un certain temps, mais il y a des difficultés. Puis là, ça a été important pour vous de pouvoir rencontrer le frère Jean-Guy Paradis, Capucin aussi. Pourquoi il a été important pour vous?
Ben, premièrement, c'est lui qui a posé la question où j'aurais dû me taire. Alors, c'est de sa faute si les Capucins sont pris avec moi. Hein? Mais il est décédé, là. Mais c'est que, justement, au postulat qu'on faisait à Québec, dans Limoilou, à Saint-Charles, sur la 8e avenue, à un moment donné, moi, ça faisait longtemps là, que j'étais plus en ville, puis ça bouillonnait, puis là. Alors, il m'a... À un moment donné, au téléphone, il me dit, regarde, il dit, quand tu iras te promener là, dehors, là, regarde comme il faut, puis on s'en reparle. Alors, la fois d'après, justement, ben, c'est là qu'il m'a dit, qu'est-ce que tu as vu? Et c'est là où j'ai dit, d'un crack de trottoir, il y a des brins d'herbe qui poussent. Il m'a dit, ben, fais pareil. Fais pareil. Là où tu es, prends racine. Là où tu es, assure-toi de vivre. Et tu es capable, tu as toutes les ressources en toi pour le faire. Donc, c'est pourquoi il a été important. Puis, on a continué à se côtoyer. Et lui, il avait le chic pour nous enrager. Par une question, un commentaire. Mais c'était jamais mesquin. C'était, maintenant, tu m'as répondu ça. À ça, plonge en toi, là, puis regarde qu'est-ce qu'il y a là-dedans.
C'était un provocateur professionnel.
Oh oui, et je connais bien des jeunes, des gens plus jeunes que moi, qui ont goûté, puis qui l'en remercient, qui l'en ont remercié là, peu avant son décès. Puis,
Parce que c'était de
alors,
la
c'est...
pédagogie, finalement, hein?
Oui, de confrontation,
Oui.
mais une pédagogie. Puis, et je dirais... Peut-être parce que souvent maintenant, c'est du comment tu te sens, du qu'est-ce qu'il y a, puis bon, au lieu de questionner, alors on est de moins en moins habitué à ça, mais quand on fait une rétrospective, on se dit ben il l'avait l'affaire parce que il nous portait à nous dépasser.
Oui. Au fil de votre formation, parce que il y a eu aussi une formation en spiritualité de 2 années à Rome, dans l'ordre des Capucins, vous étiez au Collège international Saint-Laurent de Brindes, c'est comme ça qu'on prononce?
Saint-Laurent de Brindisi, ou de Brindisi, in italiano.
Ah, c'est ça. Ben oui, on vous retrouve à Rome et vous avez dû apprendre l'italien. Alors, c'est toute une installation internationale. Présentez-nous un peu ce qui vous est arrivé pendant ces 2 années-là.
Ben, le Collège international des Capucins, Saint-Laurent de Brindisi à Rome, c'est le lieu où beaucoup de frères du monde entier viennent pour loger et étudier dans les universités de Rome, là. Toutes celles auxquelles on peut penser, je les nommerai pas parce que c'est sûr je vais l'oublier. Mais on était des frères de quoi? 35 pays différents, 150 frères, certains à l'Institut historique, donc le musée et des chercheurs qui nous côtoyaient, on mangeait au même réfectoire, tout ça. Mais ça fait grand, là, un réfectoire, 150 personnes, puis... Et là, tu as des gens de l'Asie, de l'Afrique, de l'Europe, quelques-uns d'Amérique du Nord, plusieurs d'Amérique du Sud ou centrale. Alors, c'est un mélange, c'est une... Et encore là, ça oblige à oublier un peu, des fois, ses présupposés et aller vers l'autre, la rencontre. Alors, encore une fois, des fois des tensions, des anicroches parce que à cause d'incompréhension. Mais encore là, ça te force à t'ouvrir, à accueillir, à te connaître pour mieux connaître l'autre. Alors, tout ça fait que personnellement, pendant mes 2 ans, bon, ça c'était au collège, mais avec l'université où là, bon, il y avait du monde encore d'un peu partout, de différentes cultures, c'est un brassage. Bon, c'est Rome. Ça a été la capitale de l'Empire romain et c'était donc un bouillon aussi, là, un lieu de bouillonnement. Alors, c'était pareil pour le fait de faire des études et de rencontrer des gens aussi de d'autres communautés religieuses, des fois toujours de la famille franciscaine, hein, mais aussi de différentes communautés, des fois qui ont pas de lien avec Saint-François, qui le connaissent. Ah ben oui, on l'a entendu. Ah oui, celui qui parle aux oiseaux. C'est tellement plus, c'est tellement l'homme de la rencontre avec lui-même, avec Dieu et avec l'autre. Alors, et le fait de pouvoir se laisser transformer comme il l'a été par cet appel, par cet amour qui l'a travaillé jusqu'à cette année, c'est le 8e centenaire des stigmates de Saint François. Alors, l'expression de cet amour total qui l'a transformé, transfiguré et qui n'a pu que rejaillir hors de lui.
Oui. Et donc, vous étiez au pays de Saint-François et vous avez appris la langue de Saint-François parce que pour réunir tout ce beau monde, quoi de mieux que l'italien, hein, finalement?
Oui, là je vais dire, François parlait ombrien, mais qui est aussi une des bases du français, hein, avec ces mots comme avec. Alors, le Florentin. On fera pas de philologie ici, là. Ça, on va laisser ça à Tolkien. Mais d'apprendre l'italien, qui est une belle langue que j'aime bien, et de par le fait que j'avais déjà une base d'étymologie, une base de latin, ça m'a aidé. Donc, à être polyglotte anglais, qui est maintenant ma troisième langue. Donc, français, italien et anglais, ça permet de découvrir et d'aimer encore plus Saint-François et aussi mes frères et sœurs d'un peu partout.
Elles sont liées bien souvent et parfois elles sont libres. Elles font des cerfs-volants, elles écrivent des livres. Parfois elles sont ouvertes, parfois elles sont courantes. Il y a des gens qui les ferment et des gens qui les tendent. On les met sur le cœur, on les met dans les poches. Elles construisent des parcs où vont courir les mioches. Si elles servent à sévir parfois autour du monde, on pourrait les unir, ça ferait une ronde. Celles qui tiennent des armes, celles qui sèchent des larmes, qui consolent les enfants. Celles qui nous unissent, celles qui nous punissent, moi ma main je l'attends. Donne-moi ta main, gamin, et t'apprends la scène et nous ferons une ronde, une chaîne. Si seules, quand elles sont baladeuses, tu les prends dans la gueule. Elles sont nues bien souvent, y'a des gens qui la gantent. On les met à couper, y'a des gens qui les demandent. Celles qui tiennent des armes, celles qui sèchent de larmes, qui consolent les enfants. Celles qui nous unissent, celles qui nous punissent. Donne-moi ta main, gamin, et t'apprends la scène et nous ferons une ronde, une chaîne. Donne-moi ta main, gamin, et t'apprends la scène.
j'étais perdu. Tu sais, comme toi, dans la peine, j'ai attendu que l'on prenne la mienne d'une main tendue. Tu sais, on peut faire des chaînes, et aujourd'hui, c'est moi qui prends la tienne.
Donne-moi ta main, gamin.
Vous nous avez fait découvrir, en tout cas à moi, peut-être à d'autres personnes qui nous écoutent, frère Sylvain, Claudio Capeo avec cette chanson.
Moi-même, ça fait seulement que quoi, 3 ans, 4 ans maintenant que je le connais. Un petit peu avant le premier confinement, on y revient, j'ai été opéré pour une hernie inguinale. Alors, j'étais 6 semaines à ne rien pouvoir faire. En tout cas, selon l'ordre du médecin, du chirurgien. Alors, ça arrivait parfois, par contre, que je faisais de l'insomnie. Donc, j'écoutais la télé, TV5, et il y avait des spectacles de chansons françaises. Alors, ça m'a permis de découvrir beaucoup de ces nouveaux chanteurs, nouvelles chanteuses là, françaises. Puis, Claudio, sa voix, j'ai bien aimé. Puis, quand on écoute cette chanson-là, ta main... Certains vont dire on est loin de Vivaldi, là. Mais non, parce que c'est entraînant et il y a quelque chose de libérant, mais qui nous entraîne aussi à ne pas oublier que, encore une fois, je fais partie d'un courant, je suis pas tout seul.
Oui, c'est ça. Et c'est la fraternité, en fait, cette chanson. C'est purement la fraternité. Le temps nous manque. J'aurais aimé qu'on parle de ce que vous faites en tant que recteur de l'Ermitage Saint-Antoine depuis l'année passée. Quels sont vos projets? Il va falloir qu'on trouve d'autres occasions. Je voudrais vous remercier beaucoup d'avoir pris le temps de partager avec nous ces quelques pages de vie.
Ben, c'est moi qui vous remercie d'avoir lancé l'invitation. Hein? Oui, il y a beaucoup à dire. Moi, je suis recteur là, depuis le mois de septembre l'an passé. J'ai été vice-recteur 9 ans. Mais on parlait de fraternité et c'est ce qu'on retrouve ici à l'Ermitage. Les Capucins à l'Ermitage, avec les employés, avec les 90 000 pèlerins qui viennent par année. Là. Alors, et c'est ce qu'on essaie aussi, notre spiritualité franciscaine, notre sens fraternel, d'inculquer et de vivre avec les employés qui, eux aussi, peuvent le vivre chez eux. Et le faire découvrir toujours davantage à plein de monde. Alors, merci beaucoup.
On vous souhaite une très bonne continuité à l'Ermitage et vous saluerez vos frères pour nous. Je remercie au passage Mario Blouin qui a trouvé les musiques et les chansons, ainsi que Berthold Bernier qui est à la réalisation technique. C'est Danny Benson au microphone et je vous dis à bientôt.
À bientôt. Merci à vous et à toute votre équipe.
Vous venez d'entendre Curriculum Vitae.